la prophétie, c'est un fondement dans l'Église des premiers apôtres. La première Église, elle fonctionnait comme ça. Pourquoi c'est important pour nous de pratiquer en tant qu'Église la prophétie? Le premier passage très marquant, c'est Moïse. Nombre 11, verset 29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux de moi ?» Parce que Josué, qui est un homme de Dieu, il a entendu prophétiser dans le camp, il court vers Moïse et lui dit, « Hé Moïse, il y a des gens qui prophétisent, fais-les taire !» Et alors Moïse dit, « Mais es-tu jaloux de moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes ? Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux ?» Moïse, il était prophète. Et il a dit de sa propre bouche, « Puisse tout le peuple de Dieu être prophète. » Ça veut dire que dans l'Église, il devrait y avoir une multitude de prophètes. Tout, pas forcément tous, mais beaucoup de prophètes. Et vous me dites, « Mais alors, mais ça sert à quoi la prophétie ?» La prophétie, c'est le message de Dieu, quelque chose qui vient dans notre esprit. Comme nous sommes dans l'Église, nous pouvons le dire parce que forcément quelqu'un va donner le sens ou l'interprétation, ou ça va édifier quelqu'un. C'est pour ça que la prophétie, elle est tellement importante pour le fonctionnement de l'Église. Donc Moïse, premièrement, il a dit « Puisse tout le peuple être prophète ». J'ai un passage dans les Actes qui m'est apparu intéressant. C'est dans Actes 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Des prophètes, des docteurs. C'est comme ça que les Actes décrivent l'église d'Antioche. Est-ce que dans l'église de Saint-Louis, il y a des prophètes, des docteurs? Vous voyez comme c'est important? Parce que dans l'esprit prophétique, il y a le message de Dieu qui ne passe pas par l'intelligence. Alors, par exemple, quelqu'un enseigne ici, et tout d'un coup, peut-être, ça passe par mon intelligence ou par l'intelligence de quelqu'un. Mais la prophétie, non. La prophétie, elle vient de Dieu, c'est un message qui peut s'exprimer de plusieurs manières. Par exemple, la vision. Christine a une vision dans la réunion et on a compris le message de Dieu. C'était très édifiant. Mais la réunion sans cette prophétie, ça n'aurait pas été la même réunion. Si on avait loué le Seigneur simplement, voilà, j'ai rien contre la louange, au contraire. C'est merveilleux. Mais la prophétie a donné la direction à la réunion. Et elle a parlé, je crois, à 3 personnes. C'était édifiant. Voilà. Donc, et que pour nous, c'était si important. Parce que c'est une façon que Dieu nous parle à chacun pour l'intérêt de tout le monde. Parce que le but de la prophétie, c'est pas de s'exalter soi-même. La prophétie a pour fonction d'édifier, de construire quelque chose, de donner une direction. Par exemple, il y a un prophète qui est venu dans les Actes, il s'appelait Agabus. Tout le monde était réuni en train de louer le Seigneur et tout d'un coup il s'est levé et il a dit, voilà, il va venir une grande famine sur le monde entier. Une autre fois, il était encore une fois dans une réunion, il y avait Paul. Il s'est levé, il a pris sa ceinture. Il s'est approché de Paul, il a lié ses jambes et ses mains, je crois. Il a dit, c'est ainsi qu'on liera cet homme et qu'on l'emmènera à Rome. Dieu a dit ce qui allait arriver à Paul. Et Paul le savait. Paul le savait. Alors les frères ont dit, mais il ne faut pas que tu ailles à Rome. Et Paul dit, arrêtez de me briser l'âme, je sais ce que je dois faire. Moi-même je l'ai reçu de Dieu. C'est une réalité, je serai emprisonné. ça fortifiait Paul, ça consolait les frères. Ça venait de Dieu. Paul n'était coupable de rien. Paul, c'était un serviteur de Dieu. Et tout d'un coup, il y a un prophète qui s'est levé. Voilà ce qui va arriver. Et Paul a été conforté. Et les frères, ils ont dit, d'accord, on accepte. On accepte que c'est le chemin de Dieu pour toi. Tu vas aller en prison. La prophétie, elle a une telle fonction dans l'assemblée qu'il faut absolument que chacun d'entre nous en dise « Oui, je le veux. Oui, je veux que ça vienne en abondance. Je veux que l'Église soit remplie de prophéties de manière à pouvoir comprendre le plan de Dieu pour cette assemblée. » Acte 13, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Il y avait des prophètes, il y avait des enseignants. Le Saint-Esprit, par prophétie, dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Je les envoie vers les nations pour prêcher l'Évangile. » Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de servir Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire « servir Dieu » Ils le louaient. Ils partageaient des versets de la parole et ils prophétisaient. Ils prophétisaient. Donc la prophétie sert Dieu. C'est un service. C'est un service que je rends à l'Église. Si je suis prophète, je vais recevoir quelque chose et je rends service à l'Église en disant quelque chose que Dieu m'a dit. Et alors, c'est un moment crucial. Paul et Barnabas étaient prêts pour servir. Et tout d'un coup, par prophétie, on leur confirme que c'est vraiment leur place. On leur dit, Dieu leur dit, oui, rassurez-vous, c'est bien l'œuvre pour laquelle je vous ai destiné. Et eux, pleins de confiance et de zèle, ils sont partis. Ils sont partis en Turquie, ils sont partis et en Grèce, et ils ont prêché l'Évangile. Effectivement, cette prophétie était exacte. Ça s'est confirmé. Et frères et sœurs, si Dieu vous parle dans votre cœur, vous avez besoin peut-être d'une confirmation de Dieu. Vous avez besoin peut-être d'une confirmation que Dieu vous a vraiment parlé là, puisqu'il le confirme. Je sais qu'on avait le désir de venir ici. Enfin, moi, j'avais le désir. Isabelle l'a eu après. J'ai attendu. J'avais ça dans mon cœur. Et j'ai fait des rêves prophétiques. Voilà. Dieu m'a parlé dans les rêves, mais tellement précisément. Je savais que c'était un pays, mais pas la France. Je savais à quoi j'étais appelé, qu'est-ce que Dieu me destinait. Mais je ne savais pas où. Et je continue à prier, et tout d'un coup, un jour, Dieu m'a dit, va à La Réunion. Va. Il me l'a dit, c'était fort. Et on a mis ça devant Dieu, on a mis des cités d'accord, bah vas-y, envoie-nous. Et puis tout d'un coup, Liliane est arrivée dans l'église, et elle a dit, bah venez chez moi, à La Réunion. Venez chez moi, manger, dormir. Et la fois suivante, elle a dit, bah venez, on va faire une réunion. Je vais inviter toute ma famille et on va commencer l'église. Non mais incroyable, la direction est venue d'abord de l'intérieur, de notre cœur, et ensuite par l'extérieur pour confirmer. Et il y a eu beaucoup de prophéties extérieures à moi. Et on s'est aperçu que c'était vraiment le plan de Dieu et qu'il nous avait ouvert cette porte. Et donc, en servant le Seigneur, les prophètes ont reçu quelque chose de la part de Dieu pour Paul et Barnabas. Ensuite, je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et c'est là que vous allez comprendre comment fonctionne l'Église. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. L'Église est formée et est née par l'évangélisation. Il y a bien des gens qui sont sortis pour évangéliser, pour prêcher, tout d'un coup, il y a des gens qui se convertissent. Il y a une assemblée qui se constitue. Ces apôtres-là vont enseigner, vont prophétiser, vont édifier l'Église. En principe, dans les apôtres, il y a pratiquement tous les dons. Je dis pratiquement, hein. Il y a beaucoup de dons en réalité, dans le ministère d'apôtre. Ça ne veut pas dire que l'apôtre est le chef. Ça ne veut pas dire que c'est le big boss. C'est un envoyé, il a obéi. Regardez Philippe. Philippe, il était diacre. Il servait les tables, vous vous rendez compte? Il donnait à manger aux veuves. Il s'occupait de que chacun ait une nourriture dans l'église primitive. Et tout d'un coup, il a été évangélisé. Et Dieu l'a envoyé sur le chemin du désert, en direction de l'Éthiopie. Il y a un Éthiopien qui arrive avec son char. Philippe le voit et le Saint-Esprit lui dit « Va vers cet homme !» Philippe court. Il dit à l'Éthiopien « Je peux monter dans ton char. Je vois que tu lis un livre. Est-ce que tu le comprends ?» Et l'Éthiopien dit « Non, je comprends rien. Viens, monte dans le char, explique-moi. » Philippe lui explique. L'Éthiopien se convertit. L'Éthiopien lui dit « Je veux être baptisé. » Il se fait baptiser. Philippe descend du char et hop, il est transporté par le Saint-Esprit. Par miracle, il arrive là-bas et continue à évangéliser. Philippe, à un moment donné, d'abord on dit de lui, c'est un évangéliste. Si l'Église est créée avec d'autres, tout d'un coup, il est l'apôtre de cette Église. Vous voyez, il fait partie des apôtres. Et vous remarquez que Paul ne partait jamais seul. C'était un des apôtres, au même titre que Barnabas, Silas, Timothée et tout cela. Ils avaient un ministère d'apôtres, mais ils ne se targuaient pas d'être le sommet de l'Église. Il y a une différence entre le ministère, c'est-à-dire la fonction, et le titre. On ne parle pas de titre. Dans notre Église, ça serait dommage qu'on parle de titre. Que chacun serve. Voilà, que chacun serve. On reconnaîtra très bien la prophétie. On n'a pas besoin d'avoir une étiquette prophète. Ça serait marrant. Vous avez tous des étiquettes sur le front. Prophète, apôtre, pasteur, enseignant. Enfin bref, ça serait horrible. Il a établi dans l'Église premièrement des apôtres, puisque c'est eux qui sont à l'origine de l'Église. Deuxièmement, des prophètes. C'est merveilleux. Et c'est là que je veux en venir. Comment recevoir la direction de Dieu sans que Dieu nous dise vers quoi aller? Comment connaître le besoin secret de quelqu'un si Dieu ne nous révèle pas les secrets? Comment prêcher un bon message si Dieu ne nous dit pas que c'est ce message? On peut tout prêcher, mais tout n'est pas bon aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose de bien particulier. Donc, il faut que ce soit par prophétie qu'on reçoive le message. C'est pas possible de prêcher n'importe quoi, même si c'est juste. Si je vous prêche le baptême et que Dieu veut vous prêcher la prophétie, ben quelque chose ne va pas arriver aujourd'hui. Il y a quelque chose que l'Église ne va pas vivre parce que un message que j'ai sorti comme ça, comme si on donnait une aspirine à quelqu'un qui a mal au ventre, ou une aspirine qui est pour quelqu'un qui a mal aux pieds, ou une aspirine pour quelqu'un dont le nez coule. Vous voyez, on donne le médicament par rapport à la maladie. Sans prophétie, l'Église ne peut pas fonctionner. Elle fonctionnera très mal. Et en troisième lieu, les docteurs. En troisième lieu, docteur. Qu'est-ce que c'est un docteur? En fait, l'enseignement ou la doctrine, elle donne une base solide de fonctionnement. Satan ne peut pas nous troubler. Satan ne peut pas nous tromper. Par exemple, la doctrine des baptêmes est importante. Pourquoi se faire baptiser? Pourquoi se faire baptiser? Mais parce que le baptême est la suite de mon engagement avec Christ. Je m'engage avec Christ et c'est à ce moment-là précis que je veux me faire baptiser. L'Église catholique dit qu'il faut se faire baptiser pour être sauvé. C'est faux. On baptise les bébés pour soi-disant ils soient sauvés. C'est pas la doctrine, vous voyez. C'est pas la doctrine, elle n'est pas juste. Un bébé ne doit pas se faire baptiser. Parce que le baptême vient après la conviction du cœur. Je suis convaincu que Jésus-Christ est Seigneur, qui m'a sauvé du péché, qui est mort sur la croix pour moi. Alors je me fais baptiser. La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est pas faites-vous baptiser et vous serez sauvés. C'est pas l'acte là, non. C'est qu'une conséquence. Vous voyez, la doctrine, elle est importante. Et ensuite, si on lit ce même passage, on s'aperçoit qu'il y a d'autres ministères. Ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dans les fonctions de l'Église, il y a toujours une direction. Il y a toujours quelqu'un ou plusieurs qui savent la donner. Pourquoi ? Parce qu'ils le reçoivent de Dieu. Parce qu'ils sont sensibles à ça. Gouverner, ce n'est pas une position d'autorité, c'est juste une position de direction. Ce n'est pas le pasteur qui gouverne. Le pasteur, il est le berger, donc il prend soin de ceux qui vont mal. Il va guérir les agneaux qui sont blessés. Il va les chercher dans la montagne quand ils sont perdus. C'est un ministère du cœur où on prend soin de celui qui est en train de se perdre. Mais c'est pas celui qui gouverne. Non, c'est autre chose. Et dans d'autres passages, ils ont changé le mot « gouverner » en « celui qui dirige ». Dirige une réunion. Celui qui dirige une réunion n'est pas forcément un seul. Il a une conduite, une direction de Dieu pour que la réunion se passe bien. Il y a une sensibilité, un don que Dieu a donné. Vous voyez bien, celui qui guérit et celui qui fait des miracles, c'est pas le même. Pourquoi ? C'est un autre don. Le fonctionnement de l'Église, c'est comme ça. C'est que si on apprend maintenant, aujourd'hui, à fonctionner, tout d'un coup, il va y avoir une grande richesse, une multiplicité, il va y avoir une abondance de dons. Il va y avoir une abondance de miracles. Pourquoi ? Parce que c'est pas un one-man show. Parce que c'est pas un qui est l'origine de tout. C'est un ensemble, le corps, qui doit trouver le fonctionnement selon l'esprit. La seule condition, c'est de chercher le bien de l'assemblée. C'est la seule condition. Chercher l'édification de l'Église. Chercher à ce que chaque membre aille bien. Ça, c'est la seule condition pour recevoir des dons. Et après, Dieu donne comme il le veut et comme tu l'aspires. Parce qu'il y a une aspiration. 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité. Donc l'amour, c'est le premier. La première des choses qu'on doit rechercher. Aspirez aux dons spirituels. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous dit, mon frère, ma sœur, je te demande de vouloir les dons. C'est pas un titre honorifique, c'est une nécessité. Comment peut-on fonctionner dans l'Église sans des dons de guérison? C'est pas possible. Comment peut-on fonctionner sans enseignement? Comment peut-on fonctionner sans prophétie? Donc on doit aspirer, ça veut dire chercher de tout notre zèle, de tout notre cœur. On doit aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La prophétie est définie dans la Bible par trois termes. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Toute chose qui console, qui édifie et qui exhorte est prophétie. Par exemple, je peux enseigner par prophétie. Je peux avoir une image par prophétie. Je peux avoir un rêve par prophétie. Je peux avoir une parole de la Bible par prophétie. Je peux avoir une parole de connaissance par prophétie. Dieu me révèle quelque chose pour quelqu'un. Vous avez peut-être entendu des prophéties sous le ton très autoritaire.
La menace, voilà, la menace. Ça se résume, le jugement, la menace, l'autoritarisme, la condamnation, surtout le jugement. Je me sens un mauvais chrétien. Ce qui n'est pas spirituel produit la mort. La mort dedans, la mort dans mon cœur. Je me sens un mauvais chrétien. Vous voyez, je me sens coupable. La mort, c'est quelque chose qui vient, qui t'écrase. Voilà. C'est clairement dit, nous vivons dans un monde imparfait et même la prophétie est imparfaite. C'est écrit dans la fin de Corinthiens 13. Nous prophétisons en partie. Mes frères et sœurs, si votre prophétie, elle paraît pas complète, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Une autre personne va continuer à dire la suite. Et c'est pas pour ça qu'on doit se sentir coupable. Vous voyez? La prophétie est de toute manière, sur cette terre, incomplète. Donc ça peut nous encourager à dire, ben voilà, moi je dis ce que j'ai reçu de Dieu, je laisse juger les frères. Que les frères disent oui ou non. Est-ce que vous seriez d'accord que quelqu'un vous dise ce que tu as dit, c'était pas de Dieu? Est-ce que vous seriez d'accord? Ou est-ce que vous seriez vexé?
Je pense qu'il y aurait automatiquement une vexation. Hein. Mais il y a quelque chose qui est important aussi, avant que tout ça, ces choses-là arrivent, c'est d'avoir dans notre assemblée un amour véritable les uns pour les autres. Si on a l'amour véritable les uns pour les autres, on n'est jamais vexé de quelqu'un nous reprend ou nous dit quelque chose. Parce que c'est très bien. De toute façon, c'est écrit, là, il parlait justement de Dieu. Et maintenant, je connais en partie. Donc, tout le monde peut se tromper. Jean peut se tromper.
Exactement.
Tout le monde peut se tromper. Mais ça, il faut qu'on soit sûr qu'on est vraiment des frères et sœurs ancrés en Christ et qu'on s'aime réellement. Et que le but de notre réunion, c'est vraiment que chacun soit construit en Christ, que chacun puisse vraiment avoir envie d'édifier l'autre. Moi, j'ai bien aimé un verset qui disait justement, soumettez-vous les uns les autres. La soumission, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais se soumettre les uns les autres, ça veut dire vraiment qu'on est dans l'humilité, qu'on se rabaisse. Le Christ, lui, il a fait des choses plus grandes que nous. Il est Dieu. Et il est venu comme serviteur. Donc, nous, on n'a pas à se targuer de quoi que ce soit.
Sur le coup, t'es blessé, c'est sûr. T'es comme humilié devant tout le monde. Mais après, si on cherche la gloire de Dieu, on passe là-dessus. On dit, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas moi. C'est l'Église. C'est le message que l'Église va recevoir. C'est chercher la gloire de Dieu. Voilà. Avant que moi, je sois reconnu en quelque chose, il faut que je cherche la gloire, mais pas de moi, de Dieu. Que j'aime plus ce qui le concerne lui, plutôt que ce que moi, je vais retirer. Facile pour personne de dire, bah ouais, je me suis trompé. Imaginons que tu as une vision, une image. Alors, imaginons, et ça arrivait plusieurs fois, j'ai vu quelque chose, personne ne réagit. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Ben, moi, ça me fait, ben, je me suis trompé. Et alors? Et alors, page suivante. Retourne la page. Et la prochaine fois, ben, j'ai vu ça. Ah, ben, justement, moi, j'ai ça. Ben, justement, c'est mon problème. C'était la page suivante. Et puis, deux, trois pages après, pareil, ça n'a rien d'édifiant, ce que j'ai dit. Ben, page suivante. Ben voilà, allez hop. Quelle importance? Est-ce que c'est nous qui sommes importants? Ou c'est l'Église, le fonctionnement de l'Église? Les frères et sœurs vont vivre d'édifiants. C'est ça qui est important. C'est pas nous qui sommes importants. Le but, c'est grandir. Donc, la prophétie va permettre que l'Église grandisse. Il y a une dernière chose que je voudrais dire. La prophétie, et ça c'est très important pour nos vies, ne fait que confirmer ce que Dieu nous a déjà dit, et pas l'inverse. On n'est pas dirigé par les prophètes
On y est dirigé par le Saint-Esprit en nous. Et l'Esprit prophétique va confirmer que oui, c'est la voie dans laquelle je te veux. Cherchez à en posséder abondamment. Quel est votre désir? Est-ce que vous cherchez à posséder des dons pour l'édification de l'Église? Alors Dieu va vous les donner. Dans une réunion d'Église, selon les actes des apôtres, l'esprit qu'il y a dans les prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire, si je prophétise quelque chose là, et que parmi nous, il y ait 2-3 prophètes, eh bien, ils ont le devoir de juger ce que je dis, pour savoir si ça correspond à l'Esprit de Dieu, oui ou non. Donc, vous voyez que 2 ou 3 prophétisent, les autres examinent. Et c'est écrit que dans les actes, qu'ils examinaient toutes choses au regard des Écritures. Les chrétiens de Bérée, ils examinent, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Paul, il était même examiné. Ce qu'il disait forcément. Les chrétiens, c'est pas Paul, c'est les autres. Ils examinaient toutes choses au regard de la Bible. C'est-à-dire qu'ils s'inspiraient de ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour voir si ça correspondait à l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas négatif d'examiner. C'est simplement pour que nous garder de l'erreur. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est jeune croyant ou parce qu'on fait des erreurs, qu'il ne faut pas chercher les dons. Il faut aspirer et Dieu va donner. Et après, être assez simple, quand on se trompe, de dire, voilà, je me suis trompé. Et bien, on continue. J'espère que je vous ai suscité le désir de demander les dons et d'y croire. Alors maintenant, comment pratiquer? Comment pratiquer les dons? Comment les recevoir? Seigneur, je te demande, j'ai un désir, Seigneur. Je voudrais ce don pour te servir. Pas pour moi, pour te servir dans l'Église et dans le monde. Et alors, laisse le Seigneur te le donner dans son moment, déjà. Et si tu reçois un tout petit peu quelque chose dans ce sens-là, commence à marcher. Voilà, commence à marcher. Christine a vu quelqu'un qui marchait sur un terrain sec, faisait le premier pas, et tout d'un coup, de l'eau est venue par derrière, a mouillé ses pieds, et l'eau a monté, c'est ça? Voilà. Et on a interprété cette vision. Voilà l'interprétation. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, et commence à faire le premier pas, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu va venir et inonder tes pas. Voilà ce que ça voulait dire. Et ça nous a encouragés. Voilà, ça c'est l'Esprit prophétique.